Actualité palestinienne, c'est le sujet de notre entretien du jour. Vous êtes bien sur Mizen TV et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Youssef Boussouma. Bonjour Youssef et bienvenue sur Mizen TV.
Bonjour à vous.
Je suis très heureux de vous recevoir, Youssef Boussouma, puisque vous êtes véritablement à vous seul ce qu'on peut appeler une institution militante ambulante. Vous êtes, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, un grand connaisseur de l'histoire de la Palestine, militant anticolonial de la première heure, pionnier des indigènes de la République, chroniqueur régulier à l'émission Parole d'honneur, qu'on salue par ailleurs, avec une spéciale dédicace à Omar. Et vous êtes donc à ce titre ce que j'appellerais un témoin politique du siècle. Alors pour revenir justement à cette actualité palestinienne, depuis octobre 2023, Gaza vit, Gaza survit sous le feu des bombes israéliennes. La Palestine pleure ses morts, inhumés sans cérémonie dans les décombres d'une zone en ruine. Gaza a été vidée d'un bon million d'habitants, résultat d'une politique israélienne de purification ethnique. Un génocide, puisque c'est le terme consacré, y compris par les grandes ONG internationales, se déroule implacablement dans le silence des consciences du monde, spectateur impuissant d'un martyr qui ne cesse pas d'irriguer la terre sacrée de son sang. Inscrite au fronton des capitales occidentales, gravée dans le marbre des démissions collectives, cette tragédie palestinienne, Youssef Boussouma, n'était-elle pas inéluctable?
Alors, inéluctable, c'est-à-dire inscrite dans l'histoire, inscrite, ça veut dire surdéterminée, je ne le pense pas. Je pense que elle n'était pas inéluctable, c'est-à-dire que les choses auraient pu se dérouler différemment. Les choses auraient pu se dérouler différemment. En même temps, la confrontation avec des Palestiniens, avec ceux qui ont juré leur disparition. C'est vrai, c'est quelque chose qui est inscrit depuis longtemps dans l'agenda de l'impérialisme en général et de son bras armé, l'État d'Israël. C'est vrai. C'est vrai que donc cette confrontation est inscrite depuis longtemps. Maintenant, le moment précis, cette séquence précise, nul ne pouvait la prévoir exactement, même si d'une façon générale, l'affrontement, effectivement, était garanti, puisque depuis que les Palestiniens, ont décidé de relever le défi historique, qui consiste, à les faire disparaître, il est évident que les Palestiniens, d'une certaine façon, eh bien, affrontent un ennemi colossal. Et que cet ennemi colossal est prêt à mettre d'énormes moyens pour achever son objectif, qui est de les faire disparaître. Et cela depuis près d'un siècle et demi. La bataille actuelle, en vérité, n'a pas commencé le 7 octobre. La bataille actuelle a commencé il y a longtemps déjà. Et elle a commencé à la fin du 19e siècle, effectivement, lorsque l'idéologie sioniste s'est doté des moyens lui permettant d'affronter le peuple palestinien et d'essayer de l'éradiquer, puisqu'il s'agit vraiment de cela, éradiquer un peuple de sa terre. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on peut dire que les événements d'aujourd'hui, d'une certaine façon, devaient arriver. Maintenant, la forme sous laquelle ils arrivent, personne ne pouvait les prédire, pouvait la prédire. L'intensité de l'agression israélienne d'aujourd'hui, les moyens mis en œuvre, les complicités, la collaboration des grandes puissances dans cet acte. D'ailleurs, ça va au-delà d'une collaboration, puisqu'on peut dire que réellement, c'est l'impérialisme qui agresse Gaza actuellement, et Israël n'est que le bras de cet impérialisme. On le voit bien aujourd'hui. On voit bien que l'armée américaine est en première ligne, que les moyens américains sont en première ligne, que les hommes américains, les militaires américains sont présents à Gaza, des militaires américains sont présents à Gaza, aux côtés des troupes israéliennes. La CIA met tous ses moyens de détection aérien pour repérer les tunnels, etc., etc., etc. Et les moyens militaires et les moyens financiers. Américain pour cette offensive qui va coûter d'ores et déjà au moins 40 à 50 milliards Aujourd'hui, on en est à une vingtaine de milliards, mais on prévoit que c'est 40 à 50 milliards qui vont être nécessaires. Hein, et voilà, ce sont des estimations. Tout cela, c'est d'abord les États-Unis.
Comment on peut comprendre ça, que les États-Unis mettent autant de moyens et soutiennent de manière si prononcée ce qu'on peut appeler aujourd'hui les crimes d'État israéliens, quand on voit la superficie de ce territoire qui est minuscule à l'échelle du monde? Qu'est-ce qui explique que les Américains soient si engagés aux côtés des Israéliens?
Oui, 360 km², encore une fois, une superficie stratégique bien plus importante que la superficie géographique réelle, hein, en vérité. Ces 360 km², en vérité, ne disent pas toute l'importance qu'a Gaza. Pourquoi? Mais parce que le défi que relèvent les Palestiniens est un défi historique considérable. Mais, mettre en échec, s'opposer à l'impérialisme, s'opposer à sa présence au Moyen-Orient, parce que c'est cela Gaza. Si Israël est mis en échec actuellement, c'est tout l'impérialisme qui est mis en échec. C'est-à-dire que l'impérialisme a investi, c'est un investissement Israël. Ça avait été dit récemment ça a été répété récemment par un dirigeant américain, mais c'est régulièrement, ça revenait. Israël est un porte-avions américain. Alors c'est quelque chose que nous disions, que les militants disaient depuis longtemps, pour stigmatiser l'importance qu'Israël revêtait pour l'impérialisme. On disait, Israël, c'est la sixième flotte américaine. Hein, c'est le sixième porte-avions américain. À l'époque, les Américains avaient beaucoup moins de porte-avions qu'aujourd'hui. Et on disait, Israël est le sixième porte-avions américain. Hein, c'est-à-dire que Israël coûte moins cher que l'entretien de toute une flotte chaque année. Et effectivement, Israël fait le travail. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'au Moyen-Orient, il y avait un chef d'État arabe ou une puissance qui commençait à émerger, je sais pas, ça pouvait être l'Égypte de Nasser, ça pouvait être l'Irak de Saddam Hussein, ça pouvait être la Syrie d'Assad, eh bien à chaque fois Israël était là pour se dresser contre, pour éventuellement mener des opérations, des guerres, qu'on appelait guerres préventives, etc. Donc Israël remplit vraiment cette fonction de garantir l'ordre impérialiste dans la région. Or, cet ordre impérialiste nécessite une chose, que jamais n'émerge à l'est de la Méditerranée, et là je ne fais que répéter les paroles d'un amiral britannique du début du XXe siècle, on pourra retrouver, qui disait, il est hors de question qu'émerge à l'est de la Méditerranée une puissance arabe autonome. Et c'est quelque chose qui s'est toujours avéré exact. Pour les besoins stratégiques de l'impérialisme, cette région doit être sous domination occidentale. Et d'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec les croisades, hein. On a le sentiment que jamais l'Occident n'a accepté le fait que cette région puisse finalement s'autonomiser vis-à-vis de lui. Hein. Et on a l'impression qu'on reste encore dans cette conception des croisades. Voilà. Donc, ce que font les Palestiniens, et on va en dire un mot sans doute par la suite, mais ce que font les Palestiniens aujourd'hui, eh bien, c'est opposer une résistance à un ordre impérialiste, mais qui concerne tous les peuples de la région. Tous les peuples de la région se sentent menacés par cet ordre impérialiste. Ils se sentent menacés par Israël, mais ils se sentent menacés aussi pour une autre raison. C'est que ce n'est pas uniquement pour des raisons, et là on touche à quelque chose de profond, ce n'est pas uniquement pour des raisons idéologiques que les peuples de la région s'opposeraient à Israël, s'opposeraient à l'impérialisme, simplement, comme on l'entend trop souvent dire, par idéologie nationaliste ou religieuse ou autre. Pas du tout. C'est que ça touche directement à leur mode de vie, à leur condition de vie, à leur survie. C'est que tous ces peuples de la région se rendent bien compte que si l'impérialisme s'impose, c'est toute une civilisation qui disparaît. C'est tout un mode de vie qui disparaît. C'est des conditions de vie qui se dégradent. Et c'est surtout la perte de leurs repères, de leurs valeurs, de leurs traditions, de ce à quoi ils tiennent le plus. Donc ce n'est pas uniquement pour des raisons purement folkloriques, en l'air, etc. Non, non, c'est concret. Et en résistant à cet ordre, à Israël, les Palestiniens résistent à tout l'impérialisme et d'une certaine façon tentent de sauver toute la région. C'est pour ça que le combat des Palestiniens n'est pas du tout un combat isolé. Et pour revenir à votre question précédente, à savoir est-ce que c'était inéluctable? Oui, alors j'aurais peut-être dû répondre oui et non, en fait, hein. c'était inscrit dans l'histoire, dans le long terme. Maintenant, la sauvagerie avec laquelle les choses s'effectuent aujourd'hui, nul ne pouvait le prévoir, et j'avoue personnellement que je ne l'aurais jamais prévu, puisque, vous l'avez dit, on est dans un gradient d'horreur jamais égalé. On est vraiment dans un gradient d'horreur jamais égalé.
Alors depuis des semaines, le Hezbollah libanais riposte aux tirs israéliens sur le Liban, à la frontière. On a vu que la Syrie était bombardée régulièrement par les Israéliens. Les Houthis yéménites attaquent en solidarité avec les Palestiniens des navires marchands en direction d'Israël. Les Américains sont militairement présents dans la région, comme vous l'avez rappelé, et tentent actuellement de lever une coalition anti-yéménite pour protéger leur allié israélien. Sommes-nous, Youssef Boussouma, au bord d'une troisième guerre mondiale?
Alors, pour paraphraser Jean Jaurès, la guerre mondiale est toujours présente tant que l'impérialisme existe. Tant que le capitalisme est sous la forme actuelle qui est l'impérialisme existe, la guerre est une épée de Damoclès qui sera éternellement au-dessus de notre tête tant que l'impérialisme existera. L'impérialisme a été fait par la guerre et survit par la guerre, exactement comme son rejeton l'État d'Israël, en quelque sorte, qui ne peut pas vivre sans la guerre. Alors effectivement, il y a toujours un risque. Mais j'ai envie de dire, la guerre mondiale est déjà commencée. Cette guerre mondiale est déjà commencée avec une intensité qui varie selon les moments, selon les lieux, mais elle est déjà commencée. Et Jaurès disait donc que le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage, et on peut dire que l'impérialisme porte effectivement cette guerre en permanence. Alors le conflit actuel, je l'ai dit, ne concerne pas uniquement les Palestiniens. Les Palestiniens font partie d'une coalition, d'une alliance, qu'on appelle l'axe de la résistance. Et cet axe de la résistance, aujourd'hui, il inclut bien sûr les Palestiniens, et ce n'est pas uniquement Hamas comme on le dit, c'est l'ensemble des forces vives du peuple palestinien, c'est une réduction aussi qui est totalement, qui est un abus de langage. C'est tout le peuple palestinien qui résiste actuellement. Et d'ailleurs pas qu'à Gaza, également en Cisjordanie, partout il le peut. Et ce sont toutes les forces de la résistance. Et on l'a dit, il y a au moins 14 forces de la résistance, et principalement environ 8 groupes armés militaires à Gaza, précisément. Certains sont à référent religieux, d'autres sont à référent marxiste, d'autres encore sont à référent, on va dire, nationaliste, proche du Fatah même, y compris du Fatah de Yasser Arafat, qui est à Gaza, bien que lié à l'autorité palestinienne, en ces journées, résiste aussi militairement à Gaza. Donc on voit bien que c'est l'ensemble d'un peuple et aussi toutes les organisations de la société civile palestinienne, dont on ne parle pas assez, mais toutes ces organisations de la société civile palestinienne, en quelque sorte des ONG palestiniennes, sont aussi partie prenante de cette résistance. Il n'y a pas que les Palestiniens, bien sûr. Donc dans cet acte de la résistance, il y a les Palestiniens, mais il y a aussi les Libanais, il y a les Syriens, il y a les Irakiens, il y a les Yéménites. Et aussi d'autres personnalités d'autres pays. Alors les Libanais, c'est ce qu'on appelle la résistance libanaise, avec Hezbollah, entre autres, et d'autres forces qui sont liées à cette résistance. Et ça dépasse le cadre confessionnel. Ça dépasse le cadre confessionnel. Il y a des musulmans, des chrétiens, dans cet axe de la résistance au Liban. En Syrie également, on a des forces qui agissent surtout principalement à partir du Golan syrien, dont vous savez, une partie est occupée par l'État d'Israël, d'accord. Et puis on a en Irak. En Irak, on a aussi facilement 6 ou 7 organisations en Irak, qui aussi la transcendent les confessions. Transcendent les confessions, de tous les courants de l'islam et même des courants liés à des populations, des Turkmènes, etc., en Irak même, des groupes de résistance qui sont liés, et puis bien sûr les Houthis. Alors on voit bien que c'est un axe de la résistance qui transcende toutes les confessions. On a tous les courants de l'islam, on a des chrétiens aussi, donc on a des sunnites, des chiites, des chrétiens, et donc cette guerre aujourd'hui, c'est une résistance de la part des peuples. Alors on sait d'où vient l'expression de l'acte de la résistance. C'est en référence à l'époque de Reagan, de Ronald Reagan, dans les années 80, où Ronald Reagan avait déclaré qu'un certain nombre d'États étaient des rogue states, des États voyous. Des États voyous, et pour s'opposer à cela, eh bien, en face, on avait dit, oui, il y a les États voyous, mais ce ne sont pas les États voyous, ce sont des États de la résistance. Hein. Il existe comme un axe de la résistance. Hein. Et c'est de là que date la lointaine origine de cet axe de la résistance. Et donc, effectivement, on a une confrontation aujourd'hui entre cet axe de la résistance, résistance qui résiste à quoi? Qui résiste à l'oppression impérialiste. Si l'impérialisme triomphe au Moyen-Orient, ça veut dire des conditions de vie épouvantables pour toutes les populations. La destruction de lieux de vie, la destruction d'une civilisation réellement, hein, et c'est ce que les peuples ne veulent pas. Alors, où ça prend une dimension encore plus importante, c'est que la guerre actuellement que l'impérialisme fait à Gaza, et c'est vraiment l'impérialisme qui fait cette guerre à Gaza, et pas uniquement l'État d'Israël, eh bien, est aussi liée à une confrontation globale, enfin se relie à une confrontation globale, sans qu'il y ait forcément d'entente, qui a lieu ailleurs, bah, qui a lieu entre autres en Ukraine, mais aussi qui a lieu aussi dans la mer de Chine, hein, où l'impérialisme tente de s'imposer à la faveur du conflit entre la Chine et Taïwan, mais également en Europe de l'Est, à la faveur de la guerre qui oppose donc la Russie et l'Ukraine. Et donc ce théâtre moyen-oriental est forcément lié, même si ce n'est pas un lien mécanique et volant, mais à ces autres conflits. Donc on est effectivement devant une configuration quasi mondiale. Et si on sait qu'un certain nombre de pays d'Amérique latine, aujourd'hui, se sentent partie prenante de ce qui se passe au Moyen-Orient, on voit bien que même un certain nombre de pays d'Amérique latine apportent leur soutien à la résistance palestinienne actuellement. Des pays comme Cuba, comme le Venezuela, hein, comme la Colombie, aujourd'hui même, eh bien, on voit qu'il y a une dimension réellement mondiale à ce qui se passe actuellement en Palestine.
Alors, la Cour internationale de justice a été saisie par l'Afrique du Sud pour juger actuellement les autorités israéliennes pour faits de génocide. Que peut-on attendre au juste d'une telle procédure?
Alors, beaucoup. Alors, en même temps, on le sait, ce verdict qui est attendu, enfin, il y a le verdict sur le long terme, hein, qui peut prendre plusieurs années, mais il y a aussi les mesures conservatoires. Les mesures conservatoires, c'est-à-dire les mesures urgentes pour prévenir le crime de génocide. Génocide en cours, donc l'Afrique du Sud, par sa plainte, attend eh bien, une interruption de ce processus de génocide en cours. Alors déjà, ce serait énorme. Ce serait énorme parce que ça, si Israël acceptait ce verdict et acceptait de se soumettre à ce verdict qui pourrait être l'interruption de ce processus, eh bien cela sauverait des vies humaines, énormément de vies humaines. Ça, c'est une chose. Sur le long terme, eh bien cela aurait comme effet de dissuader d'autres régimes de procéder aussi à des génocides. C'est pour ça que cette décision ne concerne pas uniquement les Palestiniens. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle commence la prévention du crime de génocide. Et cette convention sur les génocides avait été signée, donc en 48, avait été faite. C'est pas uniquement, c'est d'une façon générale pour prévenir ce crime de génocide partout sur la planète. Donc à chaque fois qu'un jugement est rendu, c'est dans l'espoir de dissuader d'autres puissances de commettre ce crime de génocide. Alors, on peut attendre qu'effectivement cette décision de la Cour, la mesure conservatoire, et qui elle est imminente, est immédiate, peut être très rapide, eh bien, on espère en tout cas qu'elle va rendre un verdict selon lequel Israël doit absolument interrompre les mesures de génocide en cours. Alors après, tout est question d'interprétation et tout est question d'obéissance ou de soumission d'Israël à ce verdict. C'est là où ça pose problème. C'est là où ça pose problème, parce qu'il peut très bien y avoir un verdict qui fasse obligation à Israël d'interrompre le processus de génocide en cours. Israël peut répondre en disant, mais nous allons mettre en œuvre tout ce que nous pouvons pour ne pas cibler l'habituelle chanson, hein, pour ne pas cibler de population civile. Et déjà, nous le faisons, mais voilà. Alors, ça peut être une réponse comme cela. Évidemment, on peut opposer à cela des faits sur le terrain. Quelles mesures concrètes Israël peut prendre? Alors Israël peut tergiverser, peut jouer avec les mots, etc. Mais au-delà de cela, donc Israël, d'une certaine façon, peut se contrefiche, permettez-moi l'expression, commande de ce verdict. Sauf que ce verdict est directement transmis au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité fait obligation à Israël, peut faire obligation à Israël de se soumettre à ce verdict. On imagine les États-Unis, le parrain d'Israël, sans lequel rien ne serait possible, ne serait-ce que la livraison des 150 000 obus de 155 dont Israël a absolument besoin pour bombarder les Palestiniens. Hein. Eh bien, si les États-Unis opposent leur veto, la procédure est la suivante, c'est que les États-Unis, s'ils opposent ce veto, doivent alors s'expliquer devant l'Assemblée générale. C'est une procédure inhabituelle, mais bon, qui dans ce cas-là est obligée. S'expliquant devant l'Assemblée générale sur les raisons de leur veto, les États-Unis seraient mis davantage en difficulté aux yeux du monde. Alors évidemment, Israël, au final, peut très bien essayer par toutes ces manœuvres et par bien sûr l'aide des États-Unis de se soustraire à cette décision, à ce jugement. Mais cela dit, eh bien, cette espèce de Israël ne pourrait pas résister longtemps, enfin les États-Unis ne pourraient pas résister longtemps et devraient davantage afficher un parti pris, une partialité qu'ils espèrent éviter.
Est-ce que ce n'est pas déjà le cas depuis très longtemps, puisqu'on sait que les crimes de génocide, de nettoyage ethnique sont déjà condamnés par toutes sortes de textes, de conventions, comme la Convention de Genève et d'autres textes juridiques. On sait bien par expérience historique que les autorités israéliennes ont violé un nombre considérable de résolutions des Nations Unies. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre une fois de plus à une réaction d'impunité de la part de Tel Aviv par rapport à cette décision de la Cour internationale de justice? Qu'est-ce que vous en
Oui,
pensez?
on peut s'y attendre, et c'est vrai, vous avez raison, ce n'est pas la première fois. Israël a refusé d'appliquer des dizaines de résolutions des Nations Unies, tant de l'Assemblée générale, mais également du Conseil de sécurité. Il y a même eu des décisions du Conseil de sécurité où les États-Unis, dans l'histoire, n'ont pas opposé leur veto, et qu'Israël, malgré tout, n'a pas respecté. Hein. C'est beaucoup plus ancien, mais malgré tout. Alors, c'est vrai. C'est vrai. Alors, ce qui est certain, c'est que cette décision de justice, elle a une valeur morale, et sans doute d'abord morale, puisqu'elle écorne complètement cette supériorité morale que l'Occident brandit à chaque fois qu'il est question d'Israël, mais pas uniquement. Que l'Occident brandit à chaque fois qu'il est confronté à une contestation. Et on le voit dans l'affaire de l'Ukraine. Sauf que là, ça va apparaître encore davantage, ce deux poids deux mesures, ce deux poids deux mesures et cette hypocrisie, dans le cas d'espèce-là, apparaîtra encore davantage, puisque simultanément, on a une affaire d'Ukraine où l'Occident se prévaut d'une supériorité morale, pour faire valoir le droit sur la force. Et c'est au nom de cela qu'on impose à des millions d'Européens des ponctions, hein, des ponctions financières énormes. C'est au nom du prétendu du droit international, hein, qu'on oblige aujourd'hui les Européens, eh bien, à s'engager financièrement dans cette guerre, dans l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine. Et au même moment, on aurait donc en Palestine, à Gaza, eh bien, une destruction totale d'un pays, d'un peuple, où on piétine allègrement les droits de l'homme, et on piétinerait allègrement une décision de justice. Alors évidemment, Israël peut toujours essayer de s'en sortir grâce aux Américains, Mais alors là, la duplicité états-unienne, israélienne, certes, mais également européenne, serait davantage mise en cause. Puisque jusque-là, l'Union européenne espérait malgré tout sauver sa morale, hein, sauver son honneur en disant, voilà, les Américains font commettre des excès, Israël, mais nous, l'Union européenne, hein, nous sommes créés pour la défense des droits de l'homme, etc., au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Hein, et voilà, et ben, je crois que l'hypocrisie de l'Union européenne, et l'Union européenne est aussi menacée par un verdict contre Israël, hein, peut-être même encore davantage que les États-Unis, puisqu'on l'a dit, les États-Unis sont coutumiers du fait, et très souvent, ils volent au secours d'Israël, et ils l'ont fait de façon constante. Mais là, je crois que l'Union européenne, hein, eh bien, recevrait une gifle morale beaucoup plus importante si jamais eh bien, elle acceptait que les États-Unis et Israël violent cette décision sans elle-même prendre des mesures, parce que je rappelle que l'Union européenne a dans ses règlements les moyens d'agir contre ce que fait Israël, et même elle aurait pu le faire sans même attendre cette décision de la Cour internationale.
Quelles sont, de manière réaliste, Youssef Boussouma, les conditions d'une victoire politique et militaire des Palestiniens? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui face à cette impuissance du droit à sauver les Palestiniens? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux Palestiniens pour qu'ils puissent recouvrer leur liberté? Est-ce qu'il s'agit seulement du soutien d'une superpuissance politique dans la région pour contrebalancer précisément le poids et le soutien militaire des Américains? Est-ce que c'est ce qui manque essentiellement ou est-ce que vous voyez d'autres choses?
Oui, on est dans un rapport de force. Et le rapport de force n'est pas encore suffisant. Mais un rapport de force, ça se construit. Le rapport de force aujourd'hui est quand même, pour les Palestiniens, plus important qu'il ne le fut dans le passé. Si on se réfère aux années 80 et à l'intifada de 87, il est évident que le rapport de force aujourd'hui est plus important pour les Palestiniens. Au plan régional, je l'ai dit tout à l'heure, il existe un axe de la résistance qui n'existait pas à l'époque. Et donc le différentiel entre la puissance israélienne et la puissance palestinienne, en dépit des massacres effroyables qui se produisent aujourd'hui, ce différentiel s'est malgré tout réduit. Alors, il n'est toujours pas suffisant pour que triomphe la cause palestinienne. Il y a encore du chemin. Mais d'ores et déjà, la sauvagerie israélienne aujourd'hui s'explique aussi par le fait que les colonialistes israéliens savent qu'effectivement les Palestiniens ont marqué des points. Ont marqué des points, et cela, c'est quelque chose qui explique aussi la sauvagerie à laquelle ils ont recours aujourd'hui. Alors évidemment, l'oppresseur sait ce qui le menace. Effectivement, l'oppression risque de cesser. Le peuple palestinien aujourd'hui a une force même sur le terrain beaucoup plus importante qu'elle ne l'était auparavant. Les Palestiniens auparavant, jusque dans les années 80, les forces palestiniennes étaient toutes en dehors de la Palestine, ne l'oublions pas. Elles étaient au Liban, elles ont d'abord été en Jordanie, elles étaient au Liban, elles étaient en Syrie. Mais aujourd'hui, la force palestinienne, la force de résistance, et y compris militaire, parce que pour se libérer, malheureusement, il n'y a pas que des bonnes paroles, il est aussi nécessaire de s'opposer, comment les armes à la main, eh bien cette force résistante, elle est aussi en Palestine maintenant. Elle ne l'était pas avant. Pendant longtemps, elle ne l'a pas été. Depuis 1948, elle ne l'était pas. Elle l'a été pour la première fois à partir des années 80, 90 et beaucoup plus aujourd'hui. Donc, elle n'est pas encore suffisante. Mais la voie est là. La voie est là. Tout retour en arrière est impossible. Israël peut essayer d'exterminer tout le peuple palestinien. Je ne pense pas qu'il y parvienne aujourd'hui, grâce à Dieu. Et c'est bien ce qui enrage Israël et l'impérialisme. Donc c'est une lutte qui va se poursuivre, et qui se poursuit dans tous les domaines, pas uniquement le domaine militaire.
J'aimerais qu'on parle, si vous le voulez bien, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'exemple algérien, de l'exemple sud-africain. Que nous disent l'histoire de l'Algérie et de l'Afrique du Sud dans les étapes et le processus de libération politique d'une occupation, puisqu'il s'agit d'occupation? Quels enseignements peuvent être tirés de ces deux expériences algérienne et sud-africaine? Est-ce que vous considérez que la lutte de libération palestinienne diffère ou non de ces deux exemples historiques et qu'elle aurait ses propres spécificités?
Alors, il y a trois dimensions à une lutte, la dimension politique, on va dire la dimension politique diplomatique, la dimension militaire et la dimension internationale, on va dire, plus précisément, de l'opinion internationale, parce que l'opinion internationale joue un rôle également. La dimension politique, dans le cas de l'Afrique du Sud, dans le cas de l'Algérie, il y a une dimension politique, enfin, politique. Au sens de la lutte par elle-même, de la cohésion des forces politiques qui manque encore au peuple palestinien. On a une division, on a une direction qui est encore divisée, puisqu'on a une partie de la direction palestinienne qui aujourd'hui eh bien, est soumise, qu'on le veuille ou non, est soumise à l'impérialisme à travers une fiction qu'on appelle le processus d'Oslo. Des négociations qui n'ont jamais abouti d'ailleurs, et que l'impérialisme lui-même s'est dépêché de faire échouer, de toute façon. Hein, donc on a une autorité palestinienne, dirigée par Mahmoud Abbas, qui est encore soumise à cette espèce de diktat impérialiste, et qui par exemple aujourd'hui coopère avec ce qu'on appelle la coopération sécuritaire avec Israël, etc. Et n'a pas pris vraiment fait cause pour la résistance qu'il y a actuellement à Gaza et en Cisjordanie d'ailleurs. Il y a aussi une résistance en Cisjordanie dont il faut parler. Toutes les nuits aujourd'hui, toutes les villes de Cisjordanie sont envahies, toutes les nuits, je dis bien toutes les nuits, depuis le 7, déjà avant le 7 octobre, mais là c'est quasiment général, la Cisjordanie est au bord de l'insurrection générale. Et toutes les nuits, l'armée israélienne intervient dans toutes les villes, hein, Tulkarem, Naplouse, y compris Ramallah. Et il y a des affrontements toutes les nuits. Et d'ailleurs, à ce sujet, il faut noter que toute la résistance en Cisjordanie eh bien, est en train aussi de prendre de l'épaisseur. Les résistants, aujourd'hui, combattent avec des moyens matériels beaucoup plus importants qu'auparavant, qui n'existaient pas auparavant. Donc on voit bien cette angoisse de l'occupation hein, qui voit grossir de plus en plus de jour après jour toutes ses forces. Alors en tout cas, ce qui manque aux Palestiniens aujourd'hui, c'est le fait que la direction politique officielle rejoignent de façon concrète la résistance en Cisjordanie et à Gaza.
En Algérie, il y avait
En
également
Algérie.
des organisations qui se combattaient et qui étaient rivales.
Oui, qui étaient rivales, mais ces rivalités alors, elles étaient différentes. Il y avait d'abord, dans le cas de l'Algérie, par exemple, comment la rivalité entre ce qu'on appelait le FLN et puis les messalistes. Hein? Le MNA, le MNA et le FLN, le MNA de Messali Hadj et le FLN, dont la police et l'armée française, cette rivalité dont ils se sont servis, évidemment. Hein, ils ont accentué cette rivalité, ils ont entretenu cette guerre civile. C'est vrai. Mais finalement, rapidement, cette unité s'est faite malheureusement par la coercition et le FLN s'est imposé. Donc très rapidement, il y a une unité autour du FLN et la majorité de la solidarité internationale s'effectue en direction du FLN. D'accord? Donc il y a eu une unité qui était absolument indéniable. Je dis bien malheureusement parce que ça s'est fait dans la coercition, ça aurait pu se faire différemment. Dans le cas de l'Afrique du Sud également, dans le cas de l'Afrique du Sud aussi également, il y avait des rivalités hein, entre le mouvement de l'ANC et puis le mouvement Zulu Inkatha hein, qui contestait, et cette rivalité a aussi été instrumentalisée. C'est le fait de toutes les situations coloniales. Dans toutes les situations coloniales, le colonisateur, hein, eh bien, en Irlande ce fut également le cas, hein, eh bien, va essayer de diviser pour régner. Mais au bout d'un moment, cette unité se fait, cette unité politique qui est quand même nécessaire, se réalise sur le terrain. Hein. Mais c'est quelque chose qui pèse. C'est une des armes du colonisateur, de diviser pour régner eh bien, la partie adverse, hein, les indigènes qui lui résistent. On essaye de les diviser par tous les moyens possibles. Alors, chez les Palestiniens, ce n'est pas encore le cas. Ça, c'est comme quelque chose qui manque. Sinon, il y a la dimension d'abord internationale, je prendrais, de l'opinion internationale. Et cette opinion internationale joue un très grand rôle. Dans le cas de l'Algérie, je crois que l'Algérie a pu bénéficier d'une opinion internationale extraordinaire. D'abord, et c'est ce qui distingue, c'est que aussi bien l'Algérie que l'Afrique du Sud ont bénéficié d'un contexte international qui s'appelait la guerre froide, avec l'existence d'une URSS et d'un camp socialiste et d'un camp du tiers-monde, le mouvement des non-alignés. Tous ces éléments ont été considérables dans le succès des luttes aussi bien algériennes que sud-africaines. C'est un contexte dont ne bénéficient pas les Palestiniens, enfin sous la forme ancienne en tout cas, on va y revenir. Et c'est vrai que ça a considérablement aidé ces luttes, aussi bien algériennes. Je le dis et je le répète, sans la guerre froide, sans l'aide du camp socialiste, du camp tiers-mondiste, ça aurait été infiniment plus compliqué.
Vous voulez dire que la Russie de Poutine n'égale pas l'Union des républiques socialistes et
Non, non.
soviétiques de l'époque?
Non, non, ça ne peut pas parce que les camps ne sont pas aussi affirmés. Les camps ne sont pas aussi affirmés, la proximité idéologique n'est pas aussi affirmée. Il y avait quand même une dimension idéologique qui était certaine. Le camp socialiste s'opposait de façon claire à l'impérialisme. Voilà. Aujourd'hui, alors malgré tout, aujourd'hui, il existe des contradictions entre ce qu'on pourrait dire grosso modo le camp occidental, hein, et le camp sino-russe, hein, de la Chine et de la Russie. Il existe des contradictions. C'est évident que ces contradictions, les Palestiniens espèrent pouvoir en bénéficier, mais c'est pas aussi net, c'est pas aussi clair, c'est pas aussi important. C'est important, mais c'est pas aussi important, hein, que toute l'aide, que le camp socialiste et que aussi le mouvement des non-alignés qui existait, qui n'existe plus aujourd'hui en tant que tel. Ça, c'est une chose. Cela dit, il existe une opinion internationale massivement pro-palestinienne aujourd'hui. Je crois que c'est indéniable. Ça, c'est un point fort. C'est un point fort et qui inquiète énormément l'impérialisme. Ça, c'est quand même un point très fort et c'est un élément positif dans ces trois éléments. Hein? Alors, la question de savoir de quelle façon cette opinion internationale peut peser sur les gouvernements, mais c'est sûr que c'est indéniable. Indéniablement un point fort, avec un autre élément, si je puis dire, dans le cas précisément, dans le cas d'Israël, c'est le, on peut dire, le quasi, comment, le militantisme de communautés juives, notamment aux États-Unis, en faveur du peuple palestinien.
Alors là,
Et
vous précédez une question que
alors, voilà,
j'allais vous
ça
poser.
concerne peut-être davantage la jeunesse, hein, parce qu'il y a aussi une rupture générationnelle au niveau de communauté juive. Alors voilà, donc on a et puis, donc le troisième élément dont je parlais tout à l'heure, c'est la dimension militaire sur le terrain. Alors cette dimension militaire sur le terrain, elle est aussi liée, dans le cas de l'Afrique du Sud et de l'Algérie, au soutien du camp socialiste, parce que malgré tout, l'Algérie, elle bénéficiait du soutien politique d'une bonne partie du camp socialiste, mais aussi du soutien militaire d'une bonne partie du mouvement des non-alignés, et particulièrement de l'Égypte de Nasser, qui a joué un rôle fondamental pour la livraison des armes, etc. Alors, pour l'Afrique du Sud, pareil, il y a une dimension militaire qui est indéniable, et dans cette dimension militaire, un élément qu'on oublie souvent dans la façon dont l'apartheid de l'Afrique du Sud a été abattu, on ne parle pas souvent de la dimension militaire. Alors on parle souvent de la dimension internationale, le boycott international de l'apartheid, du soutien politique. On est dans une période qu'on appelle la guerre fraîche, les années 80. Les États-Unis veulent se débarrasser un petit peu de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud devient encombrante, en tout cas pour l'impérialisme. Reagan met un peu de côté et lui-même va soutenir cette mise à l'encan de l'Afrique du Sud de l'apartheid. Ça devient très mauvais dans le cas de la guerre froide pour des raisons idéologiques. Mais il y a une dimension militaire qu'on oublie toujours. C'est la défaite militaire de l'armée sud-africaine face aux forces coalisées de l'ANC, de l'Angola et de Cuba. L'intervention cubaine dans cette région du monde, notamment à la bataille de Cuito Canaveral, a été déterminante. Et cette intervention cubaine, aux côtés de l'ANC d'Afrique du Sud et de l'armée angolaise, du gouvernement socialiste d'Angola, eh bien, en mettant en échec l'intervention sud-africaine, l'armée sud-africaine avait coutume régulièrement de venir attaquer les bases de l'ANC dans le sud de l'Angola, et cette mise en échec, au moins, de l'armée sud-africaine, a montré à l'impérialisme que la fonction de l'Afrique du Sud dans cette partie de l'Afrique, cette fonction était révolue, que l'Afrique du Sud n'était plus capable d'assurer l'ordre impérialiste. Et c'est ça qu'il faut comprendre. L'impérialisme, aujourd'hui, soutient l'État d'Israël parce qu'Israël remplit une fonction dans la région du Moyen-Orient. Si Israël est incapable aujourd'hui de mettre au pas la résistance palestinienne à Gaza, l'impérialisme, c'est une entreprise qui investit. Et ça coûte très cher, d'ailleurs. Et l'investissement dans Israël et dans cette guerre particulièrement, c'est, on l'a dit, c'est une vingtaine de milliards jusqu'à maintenant. On envisage 40 à 50 milliards. Mais l'impérialisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ça rejoint une question, pourquoi les États-Unis soutiennent Israël, c'est un investissement. Mais cet investissement, il faut un retour sur investissement. Parce que les opinions, et notamment l'opinion américaine, à terme, va commencer à poser des problèmes. Est-ce que vraiment l'investissement en vaut la chandelle? Enfin, le coup, hein, si je puis dire. Et comment du coup, si Israël ne réussit pas aujourd'hui à mettre en échec la résistance palestinienne, si la résistance palestinienne, et c'est quoi les conditions d'une victoire palestinienne aujourd'hui? Je crois que c'est une question qui se pose. Eh bien, ce serait simplement de tenir bon. Israël aujourd'hui que l'armée israélienne prétend qu'elle a réussi à qu'elle maîtrise la situation dans tout le nord de Gaza. Israël vient d'évacuer plusieurs brigades du nord de Gaza et est en train d'évacuer toute une division actuellement de Gaza qu'on dirige vers le nord, vers le front du nord, enfin le front du nord, aussi bien la Cisjordanie que la frontière libanaise. Israël constate une chose, c'est que les brigades qui ont été évacuées du nord de Gaza, l'espace libéré, a été aussitôt réinvesti par la résistance palestinienne, qui tire des roquettes à partir de cette région qui était censée avoir été libérée. Donc, de plus en plus, Israël se rend compte, on se rend compte, et l'impérialisme se rend compte qu'il est dans une impasse. Israël ne peut pas reculer, ne peut pas avancer, c'est un bourbier. Donc il y a une dimension militaire là. Le simple fait que donc cette résistance palestinienne ne soit pas écrasée, en dépit des moyens considérables, est un échec. Et d'ores et déjà, un certain nombre d'analystes prophétisent l'échec de l'armée israélienne actuellement à Gaza. Nous ne sommes pas au bout de cette intervention, de cette invasion, mais tout de même. Donc ça, c'est une dimension qui est très positive. Et c'est la forme que peut prendre. Si la résistance tient bon, si Israël est obligé à terme de se retirer de Gaza sans avoir imposé ses buts de guerre, parce que c'est quoi la guerre? La guerre, c'est imposer sa volonté à un ennemi. Dès l'instant où on ne peut pas imposer sa volonté à un ennemi, on a perdu la guerre. La question n'est pas de savoir combien de morts on a fait chez l'ennemi. C'est pas ça qui traduit. On a des guerres où parfois un belligérant a gagné une guerre alors qu'il a eu plus de victimes que celui qui l'a vaincu. Donc la guerre, ce n'est pas exactement le nombre de victimes. Ce n'est pas ça qui détermine une guerre. Une guerre, c'est est-ce qu'on a réussi à imposer sa volonté à l'ennemi. Et tant qu'Israël ne peut pas imposer, n'a pas imposé sa volonté aux Palestiniens, Israël a perdu la guerre. Et donc, c'est le troisième élément dont je parlais. Hein. Donc on a l'élément d'unité politique, on a l'élément de dimension internationale, les opinions, et on a la dimension militaire sur le terrain. Donc, c'est pas encore suffisant, bien évidemment. L'armée israélienne doit être mise en échec. C'est ce qui s'est produit en Algérie et en Afrique du Sud. Quand je dis mise en échec, évidemment, il était illusoire d'imaginer que la résistance algérienne puisse vaincre l'armée française au sens propre du terme. On avait une des premières armées du monde. Il était illusoire de penser que les forces de résistance sud-africaines allaient vaincre en tant que telles l'armée sud-africaine. Mais dans les deux cas, ces deux armées ont été mises en échec. La mise en échec est une défaite. La mise en échec de ces armées coloniales est une défaite. Ça correspond à une défaite pour l'impérialisme, parce que ça coûte très cher, des guerres, malgré tout. C'est ce qu'on escompte dans le cas palestinien. Une mise en échec, et cette mise en échec, elle a des effets. Elle a des effets d'abord au plan international. L'impérialisme ne veut pas investir de façon éternelle dans une armée qui est mise en échec, mais aussi au plan interne. Alors au plan des opinions internationales, mais aussi au plan interne, c'est que cela crée des crises dans les sociétés. Ça a provoqué une crise dans la société française, cette mise en échec de l'armée française. Une crise qui allait tellement loin, puisque ça a provoqué une tentative de coup d'État d'une partie de l'armée. Hein? Ensuite, il y a même eu l'OAS. Ça a provoqué une crise en Afrique du Sud, puisque ça a poussé toute une partie de la population blanche qui jusque-là soutenait la politique d'apartheid, eh bien, à se remettre en cause et à se dire finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une société où, avec de l'égalité, simplement, et mettre fin à ce régime d'apartheid? Et nous l'espérons. Cette mise en échec de l'armée israélienne, une fois passées les illusions de triomphe et l'arrogance, comment que malheureusement confère trop souvent une supériorité militaire, eh bien cette mise en échec, elle va peut-être qu'elle va provoquer une crise au sein de la société israélienne. Et cette crise de la société israélienne va, nous l'espérons, remettre en cause le consensus sioniste, le consensus colonial au sein de cette société.
Dans ce regard rétrospectif que vous portez, Youssef Boussouma, sur l'histoire de la Palestine, que pouvez-vous nous dire sur cette histoire concernant ce qu'on pourrait peut-être appeler des rendez-vous manqués? Est-ce que pour vous, y a-t-il eu des rendez-vous manqués de la cause palestinienne? La résistance palestinienne a-t-elle commis des erreurs, par exemple?
Les peuples qui se libèrent ne commettent jamais d'erreurs. Ils manquent de moyens, mais ils ne commettent pas d'erreurs. Alors, tout dépend la dimension, le sens qu'on donne au sens d'erreur.
Stratégique.
Alors, oui, on peut toujours. Alors, on aura toujours des commentateurs pour dire des Palestiniens ont commis telle ou telle erreur. Écoutez, il y a une erreur qui est souvent, enfin, qui est souvent brandie par un certain nombre d'observateurs qui se veulent impartiaux, qui ne le sont pas forcément, enfin qui se prétendent impartiaux, c'est de dire les Palestiniens auraient dû accepter le partage de 1948, pour commencer. Enfin, de 1947. Voilà. Et les choses, alors, comme on aime bien pousser, comme on dit selon le proverbe, le menteur jusqu'à la porte de sa maison. Alors on poursuit, on dit, ah oui, d'accord. Donc imaginons que les Palestiniens aient accepté le partage de 47. Pense-t-on vraiment qu'Israël, qui n'a jamais respecté aucune des résolutions de l'ONU, aurait même respecté les conditions du partage de 47? Parce que le partage de 47, il y avait aussi des conditions. C'était un ensemble de mesures. Dans le partage de 47, ne l'oublions pas, il y avait deux autres mesures qu'Israël s'est engagé à respecter. C'était par la suite le droit au retour des Palestiniens. Cette résolution mise en avant par le comte Bernadotte, justement. Et puis, il y avait aussi l'internationalisation de Jérusalem. Donc, de toute évidence, Israël n'aurait jamais respecté ces résolutions comme il ne les a pas respectées aujourd'hui. Hein? Donc, et pourtant, cette résolution qui amenait à la création de, enfin, cette proposition de partage, hein, eh bien, elle appliquait cela. Et Israël s'était engagé à respecter ces mesures lors de son admission à l'ONU en 1949. Et la commission de contrôle de cette mise en application, c'était la France, les États-Unis étaient constitués de trois pays, la France, les États-Unis et la Turquie, si je me rappelle bien. Et bien, pour autant, Israël n'a jamais respecté ces conditions d'admission à l'ONU. C'est le seul État qui a été admis à l'ONU avec des conditions. Donc, cette remarque, comment les Palestiniens auraient dû accepter le plan de partage, est nulle, on en a venu. D'abord, parce qu'ils étaient ils étaient en droit de refuser ce plan de partage, qui était le plan de partage de leur patrie, comme n'importe quel autre État au monde. Hein. Donc, je ne peux pas considérer. Quelle autre erreur aurait-il pu constituer? Moi, je pense que l'erreur, la seule erreur des Palestiniens, c'est d'avoir été socio-techniquement en décalage par rapport au mouvement sioniste. Mais ce n'est pas une erreur, bien évidemment. Parce que si les Palestiniens avaient eu les moyens, techniques, militaires, de tenir tête au sionisme, jamais ils n'auraient perdu leur patrie. Donc, personnellement, je ne vois pas d'erreur. Je vois surtout des difficultés dans le rapport de force des Palestiniens. Mais ce ne sont pas des erreurs. Non, je ne vois aucune erreur du côté des Palestiniens. Tout ce qui a pu se produire par la suite a été le résultat d'un mauvais rapport de force. Ils ont dû, comme tout peuple, réaliser un certain nombre de choses, des alliances, et essayer de créer un rapport de force qui leur était infiniment défavorable. Et au contraire, je crois qu'ils ont fait preuve d'une inventivité, même d'un génie politique extraordinaire pour avoir pu résister jusqu'à aujourd'hui.
Alors on l'a dit, Israël bombarde, tue, pille, détruit les habitations, détruit les corps et abîme les âmes des Palestiniens dans l'impunité la plus totale. Quelles sont précisément les causes qui expliquent aujourd'hui l'actuelle impunité dont jouit Israël? On a longuement abordé, vous avez longuement abordé dans cet entretien, le rôle et la responsabilité des États-Unis d'Amérique dans le soutien politique, militaire et international du point de vue des institutions, hein, avec le veto systématique au Conseil de sécurité. Est-ce que vous voyez d'autres causes que celles-là qui expliqueraient cette impunité? Nous abordions dans une émission précédente qui s'appelle Retour sur l'info le fait qu'il existait et qu'il existe encore un consensus moral israélien qui consiste essentiellement d'ailleurs en Occident, hein, dans le monde occidental, hein, en Europe, d'abord en Europe et puis aux États-Unis, qui consiste à dire que finalement les Israéliens, c'est-à-dire le foyer national juif installé en terre de Palestine, bénéficient d'une certaine manière, de manière implicite, pas d'un privilège, mais d'un bénéfice du fait des souffrances, hein, du fait du génocide nazi de la Seconde Guerre mondiale, et que de ce fait-là, cette souffrance-là aurait créé un consensus moral sur la question des Israéliens. Est-ce que pour vous, ce consensus moral existe encore après le génocide auquel nous avons assisté depuis le mois d'octobre? Et de manière générale, est-ce que vous voyez d'autres causes qui expliqueraient l'impunité dont jouent ces Israéliens aujourd'hui?
Israël bénéficie d'un consensus moral issu de la Seconde Guerre mondiale. Israël se prétend l'État des survivants. Je dis se prétend parce qu'une analyse plus fine montre que ce n'est pas exactement le cas. C'est vrai que cela a permis à Israël, cette espèce de supériorité morale dont Israël est doté, eh bien, lui confère, c'est vrai, une quasi-impunité. Ou en tout cas, c'est ce qu'habituellement on dit. Je ne pense pas que l'impunité dont bénéficie Israël soit réellement due à cette supériorité morale. Je pense que c'est quelque chose que l'on met en avant et qui ne correspond pas à la réalité. C'est quelque chose que l'on met en avant pour expliquer que tout le monde convient en disant « bah oui, vous comprenez Israël ». Mais je pense que les personnes qui disent ça, enfin ceux qui brandissent ça, n'y croient même pas en vérité. Les gouvernements occidentaux qui mettent ça en avant, en vérité n'y croient pas. Ils savent pertinemment pourquoi ils accordent à Israël cette supériorité morale. Parce qu'Israël est vraiment leur rejeton. On ne désavoue pas son fils. Israël, c'est la puissance impérialiste dans la région du Moyen-Orient. Et même si l'on conteste un petit peu les excès de son enfant, qui est un petit peu remuant, qui peut même être violent, hein, eh bien, malgré tout, on ne peut pas le désavouer parce que ce serait se désavouer soi-même. La réalité, elle est là. Alors, il y a cette espèce d'argument qu'on met en avant, c'est ce qu'on appelle un méta-argument, c'est un argument qu'on brandit pour satisfaire tout le monde et qu'on répète, bah oui, vous comprenez, mais en vérité, ils n'y croient pas. Et j'en veux pour preuve même, alors ça pourrait faire l'objet d'une discussion plus longue encore, enfin d'une rétrospective plus importante, mais les conditions qui ont fait, les raisons qui ont fait qu'en 1947-48, les États occidentaux ont soutenu la création d'Israël, en ce qui me concerne, n'ont pas du tout, enfin, ont très peu à voir avec un sentiment de repentance par rapport aux souffrances subies par les Juifs. J'en veux pour preuve l'état matériel lamentable dans lequel les puissances occidentales ont maintenu les survivants des camps d'extermination après même la Seconde Guerre mondiale, dans des camps qu'on appelle les camps de personnes déplacées, dans lesquels ces survivants ont été mis et maintenus jusqu'au moment où on les a envoyés en Palestine. Très souvent d'ailleurs, la Palestine qui n'était pas forcément la destination que ces survivants souhaitaient. Des sondages étaient faits dans ce qu'on appelait les camps de personnes déplacées à l'époque. Je crois sincèrement que cet argument de supériorité morale, c'est un argument, ce qu'on appelle un argument d'autorité, qui permet d'éviter tout débat. Les véritables raisons sont des raisons politiques, impérialistes, en ce sens que, je le répète, même des gouvernements qui pouvaient, ou l'Union européenne, qui se prétend soucieuse des droits humains, etc., si l'Union européenne jusqu'à maintenant n'applique pas à Israël les règles de, par exemple, d'acquisition de l'accord d'association Union européenne-État d'Israël, qui est soumis au respect des droits de l'homme. Et si donc l'Union européenne trahit ses propres lois, ses propres règles, qui ferait qu'aujourd'hui l'Union européenne devrait suspendre l'accord d'association. Eh bien, c'est parce qu'en dépit de tout, le marché avec Israël est très rentable dans la région. Et en même temps, avec Israël, on est assuré qu'il n'y aura pas de puissance arabe contestatrice dans la région, hein, qui pourrait venir bouleverser cet ordre impérialiste. Voilà la véritable raison. Et cette espèce de supériorité morale, c'est ce que j'appelle un pack idéologique. Vous savez, l'Union européenne et même les États-Unis prétendent aujourd'hui être pour les droits de l'homme, être contre le racisme, même aux États-Unis, hein, être par exemple pour les droits des minorités, LGBT, etc. En vérité, être contre, disons, être même pour la cause animale, d'accord, hein? Donc, on s'est construit comme ça tout un pack idéologique. L'impérialisme s'est construit tout un pack idéologique. Ce pack idéologique est simplement un paravent destiné à le prémunir de toute attaque, de toute contestation. Mais lorsqu'on regarde dans les détails, bien évidemment qu'en vérité, eh bien, ça n'est qu'un paravent. Et dans les faits concrets, hein, on le voyait aux États-Unis, par exemple, même lorsque Obama était président des États-Unis, lui-même subissait un racisme, une négrophobie indéniable. Et on voit bien que même lorsque un Obama était président des États-Unis, bah, le racisme d'État aux États-Unis perdurait. Et il en va de même pour toutes ces prétendues causes. Donc, cette supériorité morale, dont se prévaut l'impérialisme, non, parce que est-ce que l'État d'Israël, aujourd'hui, a permis de faire régresser l'antisémitisme dans le monde? Certainement pas. Au contraire, il l'a accru, d'une certaine façon. Puisqu'Israël, à chaque fois, se prévaut de la représentativité, de la représentation des Juifs du monde, et prétend que tout ce qu'il fait, c'est au nom des Juifs du monde. Donc, du coup, il incrimine, alors corps défendant, ces Juifs du monde dans des actions d'oppression du peuple palestinien. C'est ce qui fait qu'une bonne partie des Juifs du monde réagissent aujourd'hui.
On a assisté en France, par exemple, à une certaine forme d'instrumentalisation, justement, de la dénonciation ou de la lutte contre l'antisémitisme, puisqu'on a pu voir des accusations formulées contre les musulmans vivant en France, ou les musulmans de France, des accusations d'antisémitisme. On a vu même des anciens premiers ministres être accusé d'antisémitisme pour avoir dénoncé précisément les crimes de guerre israéliens en Palestine. Donc,
Oui, on a une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme, comme on peut avoir une instrumentalisation de la lutte contre le racisme, comme on peut avoir. Donc l'impérialisme ne se présente plus comme il se présentait au XIXe siècle, sous la forme brute d'une forme de violence, simplement la mise en avant de la supériorité raciale, comment d'une civilisation contre une autre, de façon brute comme cela. Donc aujourd'hui, l'impérialisme a de multiples masques, et aujourd'hui, l'impérialisme se cache derrière le masque de la défense des droits de l'homme, de la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, etc. Mais c'est un leurre. C'est un leurre qui ne résiste pas du tout à une observation fine et à l'analyse. Et de la même façon, Israël a beau se prévaloir de la lutte contre l'antisémitisme, prétend l'État des survivants, mais en aucune façon. D'ailleurs, il n'y a aucun dirigeant israélien aujourd'hui qui était, en tout cas parmi ceux qui ont fondé l'État d'Israël, et qui était un grand opposant à l'antisémitisme. Aucun. Aucun. Il y a eu malheureusement des gens qui ont été trompés, qui ensuite ont rejoint la colonie Israël après la Seconde Guerre mondiale, je le dis bien trompés, et parce qu'on leur offrait aucun autre asile. Mais en vérité, ça n'a jamais été le problème numéro un d'Israël, la lutte contre l'antisémitisme, depuis sa fondation. Puisque même, on a des citations très précises de Ben Gourion, hein, dans lesquelles il est clairement dit que. Qu'il vaut mieux privilégier comment la dimension de population d'Israël plutôt que la lutte contre plutôt que de disperser ses forces en allant lutter contre l'antisémitisme en Europe. Voilà, et que le plus important est de faire venir des populations comment en Eretz Israël. Donc je crois qu'il ne faut pas se laisser cette dimension de supériorité morale est un leurre, c'est un leurre qu'on brandit par rapport aux opinions internationales. Et que des gens vont répéter comme cela, mais qui ne correspondent même pas à la réalité. La preuve, c'est que l'État d'Israël aujourd'hui est allié à des forces antisémites et des forces racistes dans le monde parmi les plus importantes. Et à commencer par les États-Unis, où on a ces courants évangéliques qui aujourd'hui soutiennent la colonisation en Israël, de façon même peut-être plus importante encore que l'État des États-Unis lui-même. Et ces courants évangéliques sont des courants clairement antisémites, d'un antisémitisme religieux. Connus, hein, puisqu'ils attendent la fameuse bataille d'Armageddon, qui verra aussi la conversion forcée des Juifs qui auront survécu à cette bataille d'Armageddon. En tout cas,
En Europe aussi, des
et en
partis
Europe,
de politique d'extrême droite,
alors en Europe
justement
c'est
des
pareil,
collusions.
on a vu des forces communautaires ou pas communautaires pro-israéliennes s'engager aux côtés de forces d'extrême droite, clairement antisémites.
On l'a vu aussi dans la marche contre l'antisémitisme en France,
On l'a vu dans cette
très
fameuse,
curieusement.
on l'a vu fameux, de façon absolument outrancière, dans cette fameuse marche contre l'antisémitisme en France, où côte à côte, hein, eh bien, ont marché des gens qui se prétendent les défenseurs des communautés juives, et puis des forces d'extrême droite qui sont clairement antisémites.
Israël a-t-il des points faibles et quels sont-ils, Youssef Boussouma?
Le premier point faible, c'est la résistance des Palestiniens. L'extraordinaire résistance des Palestiniens. Je crois qu'il est trop tard pour l'État d'Israël. Il est trop tard d'une certaine façon, en ce sens que l'opinion mondiale, le niveau d'acceptation de l'opinion mondiale aujourd'hui, ne pourrait pas tolérer une extermination en bonne et due forme du peuple palestinien, comme ce fut le cas pour des tas de populations indigènes au XIXe siècle. D'une certaine façon, je le dis, le colonialisme sioniste a perdu du temps au XIXe siècle, s'il avait eu les moyens en tout cas. Il l'aurait fait au XIXe siècle. Aujourd'hui, il est trop tard. Donc, le premier point faible d'Israël, c'est cette extraordinaire résistance du peuple palestinien. Il y a 13 millions de Palestiniens dans le monde aujourd'hui. C'est vrai, plus de la moitié d'entre eux sont hors de Palestine, de la Palestine, enfin du territoire de la Palestine historique. Mais quand même, il en demeure suffisamment en Palestine historique, aujourd'hui, en gros 2,5, 3 en Cisjordanie, et le reste dans la Palestine de 48, officiellement citoyen israélien, de seconde zone évidemment. Donc je crois que Israël ne peut plus maintenant les exterminer au sens au sens classique où on donnait au 19e siècle, et même comme des populations ont été exterminées de façon totale. Ça, c'est le premier point faible. Le second point faible, eh bien, c'est que le différentiel, je le disais tout à l'heure, le différentiel du rapport de force s'amenuise d'année en année. Si on prend le rapport de force palestinien-israélien, on va dire en 78, ensuite, pardon, en 75, au début de la guerre civile libanaise, hein, ensuite en 82, ensuite dans les années 90 et en 2000. Et aujourd'hui, on voit bien que ce différentiel diminue de plus en plus. Les Palestiniens, les forces palestiniennes sont de plus en plus en Palestine. Vous savez que, par exemple, entre 1948 et la première intifada, celle de 87, pas un seul coup de feu n'avait été tiré en Cisjordanie contre les forces israéliennes. Pas un coup de feu. Il y avait une résistance, mais qui prenait la forme de résistance civile. Des maires avaient été élus dans les villes palestiniennes, qui régulièrement étaient attaqués, subissaient des attentats, etc. Mais il n'y avait pas. Aujourd'hui, on le voit bien. On voit la différence aujourd'hui. Donc Israël a bien conscience que ce différentiel diminue. Ça, c'est une deuxième faiblesse d'Israël, à terme. Aujourd'hui, on avait des régimes arabes à l'époque qui proclamaient leur opposition à Israël, mais qui étaient incapables concrètement, parce que c'était des résistances qui n'étaient pas forcément populaires, hein, de mettre en application, etc. Et puis, il y avait beaucoup de grandes phrases grandiloquentes, voilà, et puis pas de mise en pratique réelle de cette opposition. Aujourd'hui, on a affaire à des résistances populaires réelles à l'État d'Israël dans la région du Moyen-Orient. On le voit bien aujourd'hui avec le Liban, le Yémen, et ce sont des forces concrètes, des forces réelles. Si je prends le Yémen, on a au Yémen les plus grandes manifestations pro-palestiniennes de l'histoire de l'humanité, sans doute, hein, et avec une mise en avant d'une résistance populaire qui est absolument fabuleuse, avec tout ça dans une dignité qui était absolument extraordinaire, qui vraiment force l'admiration. Ça, c'est un point faible. Hein, c'est aussi un autre point faible, la résistance palestinienne, un soutien régional populaire concret. Et puis, troisièmement, l'autre point faible, c'est que l'opinion, malgré tout, l'opinion internationale, même si on aimerait qu'elle soit encore plus active, et la prise de conscience, on va en dire un mot sans doute, de communautés juives dans le monde occidental, ça c'est quelque chose de nouveau. Pendant longtemps, l'opinion internationale a été trompée par la propagande israélienne pendant très longtemps. Et cette supériorité morale dont on parlait tout à l'heure, elle agissait malgré tout. Aujourd'hui, beaucoup de gens font la distinction, beaucoup plus de gens qu'auparavant, font la distinction dans le monde entre ce qui est l'intérêt des communautés juives, ce qui est la nécessaire lutte contre l'antisémitisme, et ce qui est le soutien à Israël. Et de plus en plus, cette distinction, cette espèce de flou artistique sur lequel Israël a joué pendant longtemps, eh bien, de plus en plus, cette distinction est faite de façon heureuse. Non, lutter contre l'antisémitisme, ce n'est pas lutter pour Israël. Ça, c'est aussi un point faible. Donc, voilà, cette résistance palestinienne, cette lutte populaire au plan moyen-oriental, ce
Les
soutien à la
divisions,
Palestine.
y a-t-il des divisions dans la société israélienne aujourd'hui qui seraient aussi un point faible ou pas?
Alors, non. Je le dis objectivement, aujourd'hui il n'existe pas, et contrairement, mais dans le temps zéro, au moment zéro, au temps T, je ne sais plus comment on dit, non, non, mais pour une raison qui est simple, c'est que lorsqu'on est vainqueur, on ne remet pas en cause sa supériorité. Et rappelons-nous, je l'ai dit tout à l'heure, mais dans le cas de l'Afrique du Sud ou dans le cas de l'Algérie française, malgré tout, les opinions mettent du temps à basculer. On est dans une guerre de longue durée. On est dans une guerre populaire de longue durée, mais c'est la défaite qui commence à fracturer les sociétés coloniales. C'est pas l'euphorie de la victoire. Et je crois sincèrement que les conséquences de cette extraordinaire résilience palestinienne se feront sentir aussi dans la société israélienne. Pour d'autres raisons aussi, en ce sens que l'économie israélienne, alors parlons chiffres, l'économie israélienne je l'ai dit, c'est bénéficie de l'investissement constant de l'impérialisme. C'est-à-dire qu'Israël, c'est une économie qui est basée surtout sur les investissements. Israël se prétend start-up nation. Et on n'investit pas dans un pays qui n'est pas sûr. On n'investit pas dans un pays qui n'est pas sûr. La vérité des affaires. Et il est évident qu'Israël, qui brandit la sécurité comme étant son drapeau principal, hein, eh bien, c'est évident qu'Israël va pâtir énormément de son incapacité, soit à vaincre, soit à faire la paix. Et dans les deux cas, aussi bien vaincre que faire la paix, Israël est en échec. Israël avait l'occasion, je le dis, si on parlait des erreurs qui ont été commises, Israël avait l'occasion, de son propre point de vue, de stabiliser sa situation, au moins. Je ne sais pas pour combien de temps, parce que la réalité pour moi était la même. Mais avec les accords d'Oslo, Israël aurait pu saisir cette occasion pour stabiliser sa situation. Si Israël avait joué le jeu loyal avec ses accords d'Oslo, c'est-à-dire en arrêtant la colonisation de la Cisjordanie et en laissant Isaac Rabin mener ce processus. Or, Israël non seulement n'a rien fait, puisque la colonisation, le nombre de colons qui était de 130 000 au début des accords d'Oslo, c'est 700 000 aujourd'hui, si on inclut Jérusalem, 700 000, donc on est passé, donc Israël a complètement menti, trahi, ce qui était les termes de l'accord d'Oslo. Et en plus, Rabin a été assassiné. Et on voit bien qu'il y avait tout un pan majoritaire, malheureusement, de la classe politique israélienne qui n'a rien fait, au moins pour s'opposer à cet assassinat, et qui, en tout cas, en a profité. Donc, oui, Israël, de son propre point de vue, a raté une occasion. Donc, il est évident qu'à terme, cette espèce de supériorité israélienne qui pense... Israël pense qu'il pourra se maintenir sans accord de paix et en étant incapable et tant mieux, hein, eh bien de vaincre cette résistance palestinienne, eh bien je pense que ça c'est aussi un talon d'Achille en ce qui concerne la société israélienne. Cela à terme risque de fracturer la société israélienne.
Quelle est la place et le rôle, vous l'avez évoqué, donc c'est pour ça que je reviens aussi là-dessus, quelle est la place et le rôle que prennent ou que peuvent prendre dans cette lutte de libération des Palestiniens les Juifs opposés à la politique expansionniste du sionisme d'État israélien? Vous avez évoqué le cas américain, l'exemple américain, peut-être revenir là-dessus et peut-être avez-vous d'autres exemples sur l'importance de cette participation des Juifs du monde entier dans cette lutte contre cette violence.
Alors, je parle de l'extérieur, évidemment. Je ne suis pas moi-même juif et il faudrait demander donc aux excellentes organisations juives que nous avons la chance d'avoir en France, hein, avec l'UGFP, nos camarades de l'UGFP et puis de SADEC. Mais vu de l'extérieur, en tout cas, de mon point de vue, cela a une grande importance pour la lutte palestinienne aussi, bien sûr. Alors, pour les communautés juives, alors, encore une fois, je ne veux pas parler à la place, hein, mais ça a une grande importance en ce sens qu'Israël ne peut plus maintenir l'escroquerie qui consiste à dire qu'il parle au nom de ces communautés juives. Donc ces communautés juives ont intérêt également, de leur propre point de vue, à ne plus être confondues avec l'État d'Israël, même si malheureusement une partie encore aujourd'hui est trompée. Hein, et vous savez, c'est pas facile de s'opposer à un ordre moral comme ça. Et donc, elles y ont intérêt, bien évidemment. Elles y ont intérêt d'abord parce que pour le judaïsme, cette religion n'a pas à être mêlée, cette religion abrahamique n'a pas à être mêlée. Nos frères juifs, je pourrais dire, en Abraham, n'a pas à être mêlé aux menées d'un vulgaire État colonial, raciste, expansionniste. Et donc, c'est bien sûr l'honneur du judaïsme, hein, qui commande cela. Et d'autre part, eh bien, d'un point de vue aussi de concorde sociale, de vivre ensemble, je crois que Personnellement, je pense que l'antiracisme et la lutte contre l'antisémitisme et la réussite de cette lutte contre l'antisémitisme précisément ne peut se faire qu'avec une symbiose des communautés, des différentes communautés. Des différentes communautés qui elles-mêmes subissent ce racisme. La communauté musulmane, la communauté juive, et peut-être aussi, il existe aussi un racisme contre les communautés, certaines communautés chrétiennes, et ça je suis prêt à l'admettre, bien sûr. Ou en tout cas une sorte de racisme anti-chrétien, de certaines forces laïcardes même. Mais bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce vivre ensemble ne peut se faire que dans la lutte contre le racisme. Voilà, contre la lutte contre le racisme de façon collective. Et on ne doit pas y dissocier les communautés dans cette lutte contre le racisme. Et la véritable lutte contre l'antisémitisme ne peut se faire qu'au sein d'une lutte globale contre tous les racismes, y compris bien sûr le racisme islamophobe.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'dans les éléments de langage en France en particulier, on a tendance à distinguer, on fait toujours cette distinction en parlant de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, avec cette volonté de considérer que l'antisémitisme ne peut pas être noyé dans le racisme, qu'il serait une forme particulière et particulièrement grave de racisme du fait de l'histoire qui mériterait d'être distinguée. Est-ce que pour vous, ce type de formulation-là n'est pas problématique et par rapport à ce que vous disiez sur la lutte générale contre le racisme?
Bien sûr qu'il est problématique. C'est étendre à la lutte contre le racisme une forme d'apartheid en vérité. Parce qu'apartheid, c'est vraiment une vision séparée des choses. Et le fait même de dire qu'il existe une lutte contre le racisme global et une lutte contre l'antisémitisme qui serait distincte, qui serait à distinguer de par des caractéristiques propres, eh bien, c'est déjà affaiblir la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre le racisme d'une façon générale. Non seulement cela, c'est faire des populations juives une catégorie à part, et pour nous, c'est une forme d'antisémitisme, justement. Non seulement ça ne lutte pas contre l'antisémitisme, mais ça encourage l'antisémitisme, puisque pour nous, l'antisémitisme commence là où on commence, ou là où on fait une distinction entre les communautés juives et les autres. Cette mise à part. Alors cette mise à part, elle peut être jugée négative, elle peut être jugée positive, mais c'est une mise à part de toute façon. Et cette mise à part, en aucune façon, ne peut bénéficier aux communautés juives, au contraire. Et c'est cela que nous devons aujourd'hui faire comprendre à nos frères juifs, dont certains sont trompés par cette propagande impérialiste, raciste et sioniste. Hein. Il est important que nos frères comprennent qu'effectivement, et heureusement, nous avons des frères et camarades, je le dis bien, de l'UGFP, de TSEDEC, qui s'y emploient. Hein, mais aussi, c'est de l'autre côté également, disons que nous devons aussi faire l'effort de ne pas prendre cela comme argent comptant. Ce n'est pas parce que le gouvernement français, aujourd'hui, eh bien, érige la lutte contre l'antisémitisme en catégorie à part que nous sommes obligés de le croire. Nous devons dire non, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge et vous usurpez une parole. Alors, je sais que ce n'est pas facile parce que nous sommes devant un système, entre autres, médiatico-politique considérable, qui nous répète cela à longueur de journée. Hein. Mais nous devons faire l'effort de ne pas croire cela et de nous sauver, comment, de nous sauver tous collectivement, que l'on soit musulman, juif, chrétien, athée ou ce que l'on veut.
Dans cette époque pleine de nihilisme, dans cette postmodernité hein, qui nous annonçait et qui nous annonce la fin des grands récits, la Palestine n'est-elle pas finalement la dernière grande utopie politique du 21e siècle, Youssef Boussouma?
Alors, utopie non, parce que par définition, les utopies très souvent dans l'histoire ont été mortifères. Malheureusement, je ne connais aucune utopie qui n'ait pas été mortifère, enfin qui n'ait pas été mortifère. Par définition, les utopies n'ont pas le sens des réalités, et parce qu'elles n'ont pas le sens des réalités, elles butent contre les réalités. Et quand les réalités ne correspondent pas à cette utopie, elle piétine ces réalités. Elle piétine, elle les massacre même ces réalités. On l'a vu dans toutes les utopies. Alors en même temps, les utopies sont nécessaires, je pourrais dire, pour donner un petit coup d'accélérateur à l'histoire. Mais ensuite, ces utopies, on doit se garder d'essayer de les maintenir, d'essayer de les réaliser. Alors, alors, je pourrais préciser davantage les choses. En tant que coup d'accélérateur à l'histoire, oui, la Palestine est une utopie, en tant que coup d'accélérateur à l'histoire. Mais cette utopie, et c'est une utopie, on pourrait dire, bénéfique, en ce sens qu'elle révèle le monde. Vous connaissez la phrase, la preuve par la Palestine, hein, c'est notre, un petit peu notre phrase depuis les années 80, hein, c'était la preuve par la Palestine, c'est-à-dire que la Palestine, c'est le papier tournesol du monde. La Palestine révèle au monde, et même révèle au monde ce qu'il est lui-même. Parce que parfois, le monde lui-même, ou en tout cas une certaine opinion mondiale, peut être insensible à sa propre réalité. Et la Palestine révèle la direction vers laquelle le monde doit aller. En ce sens, oui, il y a cette partie d'utopie, sans doute. Il y a une partie d'utopie. Mais en même temps, la Palestine, c'est un rêve, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que la Palestine, c'est un monde réel. La Palestine va se construire avec les hommes, les femmes qui vivent dans ce terrain, avec les difficultés. Personne n'a dit que la Palestine est un paradis, sera un paradis. Le paradis n'est pas de ce monde, il est dans l'autre monde, sans doute, il n'est pas de ce monde. Donc, la Palestine et la construction de la Palestine libre sera aussi une construction qui ne sera pas forcément facile. Il y aura des difficultés, il y aura des contradictions, comme partout sur la planète. Mais en tout cas, la chose essentielle que dit la Palestine, c'est qu'il est possible de vivre, c'est qu'il est possible de vivre sans oppression, il est possible de vivre avec des différences religieuses, entre autres, puisqu'on nous prétendait que ces différences religieuses, un certain Huntington, Samuel Huntington, aux États-Unis, au début des années 90, prétendait que ce clash, un clash de civilisation existait, qu'il était de toute éternité, et voilà. Et la Palestine est en train de révéler que non, qu'il n'y a pas de clash de civilisation, en tout cas, ça ne veut rien dire, et que tout est affaire de politique en vérité. Et que par la politique, on peut aussi résoudre les problèmes de ce monde. La lutte que mènent les Palestiniens est une lutte politique, et elle peut, en ce sens, et c'est la raison pour laquelle tant de peuples dans le monde brandissent le drapeau palestinien. Ce n'est pas parce que pour eux, les Palestiniens seraient un peuple supérieur aux autres. Mais la cause que les Palestiniens, que le peuple palestinien brandit, est une cause supérieure aux autres. C'est le peuple palestinien qui l'a brandi, cette cause. Ça aurait pu être un autre peuple. Le peuple sud-africain la brandissait du temps de la lutte contre l'apartheid, et c'est pas terminé. Ou la lutte du peuple algérien aussi. Rappelons-nous aussi de l'extraordinaire engouement qu'il y a eu pour ces deux luttes. Du peuple africain et du peuple algérien, c'est que les peuples du monde se reconnaissent dans ces luttes réellement universelles. Et c'est ce qui fait l'engouement du peuple palestinien. Partout où j'ai pu me balader dans le monde, j'ai rencontré un engouement fabuleux pour la Palestine. Et bien avant même le 7 octobre. Parce que les peuples se reconnaissent dans l'idéal palestinien. Ils se reconnaissent dans cette lutte qui transcende les religions, qui transcende. Comment les appartenances et qui fait qu'un être humain peut se reconnaître dans un autre être humain en dépit des frontières. Ce peuple palestinien qui est méprisé, qui a été méprisé par l'impérialisme, qui n'arrive même pas à passer une frontière, qui ne dispose même pas d'un passeport digne de ce nom. Et il montre au peuple du monde son extraordinaire volonté de désir de vie. Et c'est ce désir de vie qui force le respect. C'est ce désir de vie sans haine. Regardez les Palestiniens lorsqu'ils parlent, ils n'ont aucune haine. Regardez ces Palestiniens qui ont perdu toute leur famille. Des familles entières ont été exterminées. Donc parfois, il ne reste même pratiquement personne. Regardez ces journalistes palestiniens, ce fameux journaliste palestinien qu'on a vu sur les réseaux, qui a perdu pratiquement toute sa famille, et il s'exprime sans haine. Alhamdoulilah, c'est la volonté de Dieu. Alors, ce n'est pas du tout la résignation, on le voit bien, mais même quand ils s'opposent, regardez même dans les termes, lorsque les Palestiniens actuellement, dans les médias, parlent de l'ennemi, ben, ils disent l'ennemi ou ils disent l'occupation. Traduction exacte en arabe. Ils disent l'occupation, ils disent l'ennemi. Prenez même les rapports des organisations armées palestiniennes aujourd'hui. Ils disent même pas les juifs, etc. Ils disent l'ennemi, l'occupation. Nous avons détruit tant de chars de l'occupation. L'occupation a investi la vieille ville de Naplouse. C'est tous les communiqués que nous pouvons lire aujourd'hui, qui sont traduits aussi bien voilà, de l'anglais, de l'arabe vers l'anglais ou de l'arabe vers le français. Et donc, mais prenez en face la façon dont Israël parle, dont les dirigeants israéliens parlent, dont les soldats israéliens parlent, dans ces centaines, ces milliers de vidéos qui sont faites depuis 7 octobre. Comment sont traités les Palestiniens? On le sait très bien. Ça fait l'objet des chefs d'accusation à la Cour de justice. Ils sont traités d'animaux. Ils sont traités de vraiment de. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà dans les années 80, des dirigeants israéliens, Raphaël Etan, le chef d'état-major de l'armée israélienne, parlait des Palestiniens encerclés dans Beyrouth en disant ils sont comme des cafards dans une bouteille. Ils tournent en rond. Un certain rabbin israélien, Ovadia Yosef, disait que les Palestiniens sont comme des serpents. Grand rabbin. Donc on le voit bien, on a deux façons même de parler de l'ennemi qui n'ont rien à voir. Et on voit bien que les peuples du monde reconnaissent leur humanité. Chez qui ils reconnaissent leur humanité? C'est chez ces Palestiniens qui, dans un rapport de force incroyablement défavorable, résistent avec dignité, et dignité même dans la façon qu'ils ont de qualifier l'ennemi. C'est-à-dire qu'ils laissent la porte ouverte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que demain, on peut vivre avec des populations qui ont été trompées comme ça. Mais l'inverse est impossible. On ne voit pas comment les sionistes aujourd'hui pourraient vivre avec des gens qu'ils qualifient de serpents, d'animaux, à quatre pattes, voilà. On voit bien de quel côté se trouve l'espoir et d'une façon générale, la morale humaine, parce que malgré tout, on réagit au nom d'une morale humaine. Et cette morale humaine, elle peut être religieuse pour certains, elle peut être non religieuse, séculaire pour d'autres, mais nous avons une morale. Et c'est cette morale qui guide nos pas.
Merci Youssef Boussouma, merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous
C'est la fin de cet
remercie,
entretien.
vous-même.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Quant à nous, on se dit à très bientôt sur Mizen TV. Merci.